Le missionnaire est retourné un moment sur son îlot intemporel avant de se faire projeter de nouveau dans le temps, à l'époque de l'Atlantide. C'est toutefois en Australie qu'il devra débuter son aventure avec des petits singes féroces. Primus Tazal saurait reconnaître ses ancêtres, tout comme l'homme a évolué physiquement depuis l'époque des premiers humanoïdes terrestres. Voici Péchel et le trésor d'Anakilémon. Il y a peut-être 6 000 ans de cela, l'Australie ou encore le continent austral était déjà peuplé par 2 tribus d'indigènes qui prétendaient venir de l'île Feu à cause des pierres d'oricalque qui se trouvaient un peu partout comme des tisons rougis par le soleil. En réalité, le seul endroit au monde où de telles roches pouvaient exister, c'était bien en Atlantide. En effet, jamais on n'en trouva de pareil ailleurs, et surtout qui brillait comme d'un feu ardent. Donc, en toute logique, les indigènes des côtes de la future Australie étaient les descendants des Atlantes. Si cette théorie semble plausible, il faudra bientôt changer d'avis au sujet de l'origine de nos étranges primates dont nous parlons. Les tribus australiennes étaient physiquement semblables à nos ancêtres singes, et cependant, elles étaient mentalement de véritables humains. On n'a qu'à s'imaginer des singes intelligents pour se faire une image des bananutes et de leur voisin Youpi, qui était, soit dit en passant, vraiment cruel et sanguinaire. À cette époque, il arriva un étrange visiteur qui traînait un gros coffre en or muni de roues vraiment belles, puisqu'elles étaient sculptées et ornées de pierres précieuses. Les primitifs qui virent cet homme grand et bossu pour la première fois prirent celui-ci pour un esprit de la mer lorsqu'ils comprirent qu'il venait d'aborder sur la grève avec un radeau. Mais le pauvre homme n'était pas un dieu ou un esprit, mais Sanya, l'élève d'Anakilémon, un puissant maître atlante. Celui-ci avait confié son trésor à ce bossu afin qu'il le transporte à travers le monde. Le voyageur se retrouva en Australie et sans attendre, il traîna son gros coffre sur le sable, sans savoir pourquoi son maître disparu ne lui avait jamais demandé de s'arrêter quelque part. Il faut dire que Sanya était un pauvre d'esprit qui suivait à la lettre les recommandations d'Anakilémon. Comme il devait passer à travers la forêt vierge, il n'hésita pas à soulever le coffre avant de le transporter sur ses puissantes épaules. Sanya était d'une force extraordinaire et par prudence, les habitants des côtes suivirent de loin. Le suivirent de loin pour tenter de savoir où cet esprit marin avait l'intention de se rendre avec cette étrange chose dorée. Le coffre fut bientôt déposé sur le sol dès que notre homme sentit ses genoux fléchir de fatigue. En effet, Sanya se faisait vieux et comprenait parfaitement qu'il n'était plus en mesure de poursuivre sa route pour bien longtemps. Les hommes singes le craignaient terriblement, même si aucune arrogance et méchanceté n'apparaissaient dans le doux regard du voyageur. On aurait dit un petit enfant dans un corps de géant. Après plusieurs jours, quelques primitifs osèrent l'approcher pendant son sommeil et déposèrent quelques fruits devant lui pour lui faire comprendre qu'il désirait son amitié. Le voyageur se réveilla aussitôt pour leur sourire. Sanya fixa un long moment ces petits hommes très laids et se décida ensuite à leur parler mentalement. Ils comprirent que ce vieil homme possédait ce don de communiquer avec eux sans articuler ses lèvres. C'est ainsi que débuta une courte amitié entre les habitants australiens et l'étranger qui disait venir de l'Atlantide. C'est lui qui leur parla des pierres de feu et de la géographie de sa terre natale. Il expliqua finalement que son gros coffre contenait un miroir fantastique qui montrait toujours la vérité à celui qui se regardait dans l'intention d'en apprendre davantage sur lui-même. Les hommes singes, qui vivaient à cette époque sans se donner de nom véritable, voulurent donc se mirer sur le miroir de vérité, et ce fut ensuite le début d'une division au sein de cette tribu primitive. Un primate vit un singe aux dents pointues le regarder d'un air menaçant, tandis qu'un autre voyait une figure humaine. Sanya voulut faire comprendre à ceux qui se voyaient monstrueux qu'ils ressemblaient simplement à leurs ancêtres, encore inconscients de leur nature humaine, tandis que pour d'autres membres de la tribu, ce passage vers l'humanisation s'était déjà fait. c'est pour cette raison qu'il se voyait avec des visages humains. Le pauvre homme était trop naïf pour réaliser que son miroir dérangeait les primitifs, encore trop bêtes pour accepter cette différence entre eux. Ils étaient intelligents comme des hommes, mais l'orgueil les obligeait à refuser de se comparer encore à des animaux cruels et sanguinaires. En effet, certains habitants agissaient exactement comme des fauves, tandis que d'autres étaient déjà sur le chemin de la sagesse. La force physique de bon nombre de mécontents se retourna finalement contre Samia. Il fut tué sauvagement et dévoré par ceux qui doutaient encore qu'il puisse y avoir la moindre vérité à voir dans ce gros coffre. Ils s'étaient vus comme des bêtes féroces, puisqu'ils agissaient comme tels. Mais comment expliquer à des animaux intelligents qu'ils ne sont pas encore des hommes? Pour eux, l'image du singe féroce ne pouvait être que celle d'un esprit dévoreur, et non le reflet de leur propre nature. Il fallait donc nourrir ce monstre pour l'empêcher de sortir du coffre, et s'emparer donc des plus faibles de la tribu pour les jeter rapidement dans la boîte dorée. À leur grande surprise, ceux-ci disparurent dans le miroir. Ils passèrent simplement à travers ce verre étrange pour aboutir dans une autre période de l'histoire. En effet, ce miroir était également une porte entre deux époques, mais nos primates ne le savaient pas. Pour éviter de se faire jeter dans le coffre, des centaines de primitifs fuirent leurs frères stupides pour finalement se bâtir un autre village dans la forêt. Le trésor d'Anakilémon demeura entre les mains de ceux qui se donnaient fièrement le nom de Yupi, ce qui voulait dire dans leur langage primitif « les maîtres ». De leur côté, les humanisés se firent suggérer celui de Bananut après que leur chef affirma avoir rencontré un étrange singe qui se disait s'appeler Primus Tazal. Il lui dit en marchant sur une grosse baie rassemblant un globe terrestre, « Bonjour à toi, qui que tu sois. Mon nom est Primus Tazal, mais celui d'un français commun est Bananus. Je suis venu de très loin pour t'apprendre que notre race deviendra un jour très évoluée, grâce à Aurore, qui enfanta Bananus à une époque où des animaux énormes peuplaient la terre. Je n'ai pas le droit de te dire autre chose sur notre mère, mais sache que Bananus était le fils d'une humaine et non d'un animal. C'est pour cela que votre tribu doit poursuivre son évolution en s'identifiant à Bananus et non aux Yupi, vos voisins. Un jour, un missionnaire viendra vous aider à reprendre le coffre qui appartiendra ensuite à notre race si nous savons utiliser son pouvoir avec sagesse. » Dans la langue primitive, Bananus se disait simplement Bananut. Ainsi, les premiers membres de cette race attendirent longtemps l'arrivée de ce missionnaire promis par Primus Tazal. Son nom était Fondemedenlor Peychel, l'un des rares humains à pouvoir voyager dans un étrange couloir intemporel qui le conduisait non pas où il désirait aller dans l'histoire, mais simplement là où ses maîtres l'invisible décidaient de l'envoyer en mission. Une pluie de pierres s'abattit près d'un voyageur qui venait à peine de sortir d'un couloir lumineux pour se promener prudemment sur la plage. Fontaine-Denlor Peychel réalisa qu'il n'était pas le bienvenu à cet endroit dès qu'il vit une centaine d'hommes singes le poursuivre avec des genres de lances assez pointues à son avis pour lui faire de jolis trous dans la peau. Il fallait fuir, mais sûrement pas en direction de la mer où des pêcheurs au visage belliqueux s'approchaient lentement de lui dans le but de l'encercler. Il restait la forêt, et c'est de ce côté-là que le missionnaire décida de semer ses poursuivants. Étrangement, les Yupi ne tenaient pas du tout à s'aventurer dans cette jungle, où une bête monstrueuse mordait ceux qui osaient traverser son territoire. Peychel l'ignorait, évidemment. À peine put-il libérer des hommes singes, qu'un cri se fit entendre derrière lui. On aurait dit des aboiements atroces et même des hurlements désespérés. Cela fut suffisant pour que le fugitif s'arrête subitement, afin de tendre une oreille attentive. Les jappements plaintifs ne trompaient pas. Un chien criait à l'aide derrière une petite colline boisée qui se trouvait à la droite de notre homme. Il s'y rendit sans même hésiter et vit alors un énorme chien à demi enfoui dans une mare boueuse. La bête fixait le missionnaire d'un air apeuré, puisqu'elle réalisait que cette vase noire l'entraînait lentement au fond. Péchel se défit rapidement son vêtement dans le but de s'en servir comme bouée de sauvetage. La bête comprit son intention et mordit aussitôt dans le costume. « Ne le lâche surtout pas, lui dit Péchel, en tirant le chien hors de la vase. Voilà, tu es libre, mon ami. » « Oh, j'ai bien failli y rester, lui répondit l'animal, en jappant de joie. Je te dois la vie. » « Je n'ai fait que mon devoir, se contenta de répondre l'homme, en remettant son vêtement malgré qu'il soit très sale. « C'est étrange, on dirait bien que tu comprends mon langage. » « Oui, j'ai ce don particulier de pouvoir communiquer avec tous les êtres vivants de l'univers. Quel est ton nom, mon brave chien, au croc énorme? » « Je n'ai pas besoin de nom, puisque je suis le seul animal de mon espèce dans cette forêt. »« D'accord, mais à présent que nous sommes deux, j'aimerais bien pouvoir te trouver un nom pour t'appeler au besoin. »« Que dirais-tu de celui de Boubou? »« Pourquoi Boubou? Est-ce un nom de chien? »« Mais c'est un joli nom pour quiconque aime qu'on se souvienne facilement de son nom. » Tu vois, le mien est Fontaine Denlor Péchel, et la plupart des gens préfèrent simplement m'appeler Péchel, puisqu'ils oublient souvent mes deux prénoms. Mais celui de Boubou est facile à retenir, surtout s'il te rappelle que tu as bien failli te faire enliser dans cette mort de boue. La Boubou, c'est Boubou. La boue, oui, je vais m'en souvenir toute ma vie, et surtout que c'est toi qui m'as sauvé d'une mort certaine et sale. « Alors j'accepte volontiers ce joli nom de Boubou. Tu sais, Fontelard, Fontaimé, mais fais comme tout le monde, et appelle-moi simplement Péchel. »« D'accord, tu sais, Péchel, que je suis reconnu pour être un chien cruel et féroce. »« C'est ce que disent les Youpis, parce que je les mords sans hésiter s'ils osent s'aventurer sur le territoire de mes amis, Bananut. »« Ils me nourrissent et me soignent lorsque je suis malade. » En retour, je les défends contre leurs voisins carnivores. Ils mangeraient tous mes amis si je n'étais pas là pour les chasser en dehors de la forêt. Les bananes sont gentils. Ils sont surtout amusants avec leurs grosses boules de bois sur lesquelles ils voyagent sur les sentiers qui entourent leur village. On dirait que cette habitude de marcher sur une boule vient de leur chef, qui voulait imiter un sage voyageur qui se disait le dernier descendant de la race des bananes. Mais comment peut-on être le dernier d'une race qui vient à peine de commencer? C'est très simple à comprendre, mon Boubou, si on voyage comme moi dans le temps. Lorsque tu m'as dit que les bananes aimaient marcher sur des boules, j'ai aussitôt songé à mon ami, Primus Tazal. Je l'ai rencontré dans ma dernière aventure que je viens à peine de terminer dans une tribu néandertalienne. Tu sais, celle-ci n'existe plus. Au moment où je te parle, puisque l'homme de Néandertal vivait sur Terre il y a plusieurs milliers d'années de cela. La seule chose que j'ai rapportée de cette époque-là, c'est mon vêtement fait en peau de rhinocéros laineux. Tu sais, cet animal n'existe plus, tout comme les Néandertaliens. En ce qui concerne Primus Tazal, j'ignorais qu'il était le dernier des bananes, mais par contre, je savais qu'il pouvait voyager partout dans le temps comme moi. Il lui fut facile d'aller visiter les premiers membres de sa race qui deviendra celle des maîtres de la forêt verte. C'est Primus Tazal qui me l'a dit, et je crois qu'il avait de bonnes raisons pour venir s'entretenir avec le chef des bananes. Tu sais, on raconte au village que Primus Tazal a promis d'envoyer un missionnaire qui aidera les bananes à reprendre un coffre énorme qui se trouve encore entre les mains des Youpis. « Un missionnaire, dis-tu? C'est peut-être moi, après tout. Mais Maître de l'Invisible ne me dit jamais à l'avance quelle sera ma mission, et encore moins à quel endroit je devrais l'accomplir dans le temps. Si Primus Tazal semble tenir un coffre qu'il veut voir entre les mains de ses ancêtres, celui-ci doit sûrement être indispensable pour l'évolution de ceux de sa race. Il doit sans doute contenir des parchemins ou des trésors qui vont permettre aux bananes d'atteindre une grande sagesse. » « Pour le moment, dit le chien, le coffre appartient aux Youpis qui s'en servent pour offrir des victimes au monstre Nimala, celui qui a toujours faim de chair et de sang. »« Nimala, c'est un monstre qui garde ce coffre, n'est-ce pas? »« pas exactement Péchel. Il vit au fond de celui-ci. On ne peut le voir, à moins de regarder soi-même dans le coffre. Les bananes disent qu'il n'y a aucun monstre dans celui-ci, mais simplement un miroir qui laisse voir la véritable nature de celui qui se regarde au fond du trésor. Il fut apporté ici par un géant pacifique, mais les Yuppies l'ont tué avant de le dévorer. Ouais, je crois comprendre pourquoi Trimestazal désire confier ce coffre mystérieux à ses ancêtres, qui en feront bon usage et grâce auquel leur civilisation évoluera rapidement. Mais entre nous, Boubou, je ne suis pas un guerrier pour me battre contre les Yuppies. Ce n'est pas moi qu'on aurait dû choisir pour cette mission, mais un militaire de métier. J'ai eu droit à un chaleureux accueil de ces primates qui me laissent supposer qu'ils ne sont pas le genre d'êtres avec lesquels on peut s'attendre à dialoguer pacifiquement. Si tu veux, Péchel, je vais te conduire auprès des bananutes qui t'attendent depuis bientôt 10 ans. Il ne faudrait pas les décevoir en refusant les honneurs qui t'attendent dans cette tribu. À chaque jour, ils se rassemblent autour de Nelu, leur chef, afin de lui demander s'ils doivent préparer la hutte du missionnaire. Nelu baisse alors les yeux pour leur faire comprendre que ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il arrivera. Ce chef est très vieux et c'est mon meilleur ami. Tu comprends, il t'attend depuis que Trimestazal lui promit un missionnaire. Tu as raison, je n'ai pas le droit de décevoir mon brave Bobo. Je trouverai bien un moyen de vaincre les Yuppies si mes maîtres veulent évidemment me seconder dans cette mission. Péchel et Bobo marchèrent quelques kilomètres dans une épaisse forêt avant d'arriver dans une sorte de vallée ressemblant à un immense parc public, traversé un peu partout par des sentiers très larges et vraisemblablement réalisé par le passage régulier des billes de bois dont parlait le chien. Autour des routes se dressait le village des Bananutes. Ceux-ci étaient déjà passés maîtres dans l'art de construire des huttes en bois rond de toute beauté. On aurait dit des tours recouvertes de feuilles, dont l'aspect général faisait penser à une longue chevelure verte. Péchel vit d'ailleurs quelques artisans réaliser une mèche en collant d'abord plusieurs feuilles le long d'une liane avec une résine, pour ensuite rouler cette longue tige qui prit très vite la forme d'un fil. Il en faudrait des milliers pour terminer un toit, mais personne ne se pressait dans ce village. Le missionnaire vit plusieurs enfants exercer leur équilibre sur des billes énormes, sous le regard amusé de leurs parents et amis. Péchel ressentit une étrange sensation en examinant plusieurs hommes-singes, juchés sur des boules de bois, qu'il faisait rouler rapidement autour des enfants pour les impressionner. Il avait l'impression de voir son ami Trimestazal en centaines de jumeaux. En effet, il n'existait aucun doute concernant les origines de ce petit singe intelligent, qui aimait parfois se prétendre l'ancêtre commun de l'homme et du singe. Il voulait simplement faire comprendre qu'il possédait un corps de singe et une conscience humaine. On sait que l'homme trouva ses racines dans un lointain ancêtre qui ressemblait au singe, mais on ignore que les bananutes étaient les descendants d'une femme qui fut malheureusement victime d'une plante humanoïde lorsqu'elle se retrouva accidentellement à l'époque des dinosaures, après l'avoir été attirée par le couloir intemporel. Un jour, une étrange tige, ressemblant à une queue de singe, féconda la pauvre Aurore, qui mit ensuite au monde deux enfants singes, dont l'un s'appelait Balanus, et l'autre était Genel, sa jumelle. Celle-ci périt au cours d'une éruption volcanique, mais son frère trouva refuge en Afrique. Plus tard, ses descendants arrivèrent en Australie après avoir emprunté une étroite bande de terre qui reliait ces deux continents. Donc, en examinant les bananutes, on est bien obligé d'admettre qu'ils descendent d'une humaine et non du singe. Les Yuppies étaient évidemment inclus dans cette descendance humaine, même si leurs mœurs laissaient à désirer. Le missionnaire s'approcha lentement du village en compagnie du protecteur des bananutes. Tous les regards se posèrent sur Péchel, tandis que Bobo lui disait d'une voix émue, « Regarde-les sans crainte, puisqu'ils savent parfaitement que je ne t'aurais jamais conduit dans leur village si tu n'étais pas celui qu'ils attendent depuis si longtemps. Je te crois, mais je me sens tout de même ridicule de devoir me faire passer pour celui qu'ils attendent, sans en être moi-même convaincu. » Nul, le chef de la communauté, se fit un devoir de venir accueillir lui-même l'étranger en lui disant sans attendre. « Salut à toi, missionnaire de Primus Tazal. Je savais bien que tu viendrais bientôt à cause des Yuppies qui veulent nous attaquer d'ici peu pour nourrir leurs monstres qui n'existent pas dans leur coffre, mais dans leur tête. Sois le bienvenu, qui que tu sois. » « Je suis Fontaine de Nord-Péchel, un pauvre homme, qui ne sait même pas s'il est censé être votre missionnaire. Pardonne-moi ma franchise, mais je ne suis pas un héros pour jouer à me battre contre les Yuppies. J'ignore même où je me trouve dans le temps. Tu es le missionnaire que nous attendions, puisque Primus Tazal m'a dit que celui qui nous aidera à reprendre le coffre du maître Anakilémon voyageait dans le temps, comme lui. Viens. » Nous t'avons préparé une jolie hutte pour te reposer. » Péchel suivit Nelu et salua naïvement de la main les villageois qui se pressaient autour de lui sans toutefois lui adresser la parole. Notre homme entra dans cette coquette demeure où l'attendaient des centaines de fruits et légumes fraîchement cueillis et déposés en forme de bouquet dans un coin de la hutte. Étrangement, il n'y avait aucune banane parmi ces fruits. Soit qu'il n'en poussait pas dans cette forêt, ou c'était peut-être un fruit que les bananutes ne voulaient pas manger afin de se distinguer du singe. En effet, tout le monde aime bien associer la banane au singe, et pourquoi pas, par extension, à d'autres images suggestives qui dépendent de l'imagination de chacun. Après s'être reposé, Péchel reçut la visite de Nelu et de 5 autres membres de la tribu qui représentaient toutes les couches de la société bananute. Il y avait celle des bourgeons, ou encore des enfants, celle des fleurs ou des adolescents, celle des arbres ou des adultes, celle des fruits ou des aînés, et enfin la couche des naturels. Celle-ci comprenait tous les membres de la tribu qui œuvraient à la protection de la nature en aidant les bourgeons, les fleurs, les arbres, les fruits de la vie. Ainsi, ces naturels étaient des sages bananutes qui aidaient les différentes branches de la société à fonctionner harmonieusement en communauté. Ils intervenaient uniquement comme guides et non à titre de chef spirituel. Les bananutes croyaient uniquement en la simplicité en toutes choses et à la liberté d'expression de chacun. Péchel vit les représentants s'asseoir devant lui en demi-cercle et comprit qu'ils étaient venus s'entretenir avec lui. Il s'assit donc devant eux et attendit qu'ils lui posent des questions. Mais voilà! Les bananutes se taisaient afin de les laisser s'exprimer librement. Notre homme finit par leur dire en jouant à peigner sa barbiche de chèvre. « Je suis Fontaine de Nord-Péchel. »« Nous savons, lui répondit un jeune bourgeon en riant de bon cœur. « Bon, vous n'êtes pas très bavard, ajouta le missionnaire en souriant. « Pouvez-vous au moins me dire à quelle époque nous nous trouvons exactement? » « Mais à la nôtre, lui répondit un naturel d'un air amusé. » Ce qui veut dire? Eh bien, nous savons seulement que tu es ce missionnaire qui doit nous aider à récupérer le coffre de Samia, lui dit Nelu. Tu nous demandes de te situer dans le temps, parce que tu as ce pouvoir de le traverser comme un long sentier qui mène dans les différentes époques de l'histoire. Mais nous, comment veux-tu que nous sachions te renseigner, puisque nous ignorons tout sur nos ancêtres, et surtout sur celui qui se disait le dernier descendant des Bananus? Primus Tazal m'a simplement mentionné que notre race est issue d'une humaine qui vivait à l'époque des monstres dinosaures. C'est quoi un dinosaure selon toi? C'est une bête vraiment énorme qui vivait au début de l'histoire terrestre, il y a des millions d'années de cela. Ainsi, Bananus vécut à l'époque des premiers habitants de la Terre, lui demanda un membre de la tribu. « Oui, une voix intérieure me dit que c'est quelque part en Amérique. Je m'y fie lorsque je dois répondre à des questions importantes. Malheureusement, elle répond rarement à celles que je me pose moi-même. Donc, si vous avez d'autres questions, il se peut que cette fichue informatrice secrète se décide à m'indiquer ce que je veux savoir. »« D'accord, nous allons te questionner. Si c'est ainsi que nous en apprendrons davantage sur nos ancêtres, lui dit un naturel. » « Bananus vivait en Amérique. Peux-tu nous situer cet endroit? C'est près d'ici. » « Non, il s'agit d'un vaste continent sur lequel vos descendants vont retourner un jour pour y poursuivre leur évolution. on me dit que Bananus quitta l'Amérique en radeau, en compagnie des siens, et qu'ils arrivèrent en Afrique. J'ignore combien de ses compagnons et compagnes sont avec lui, sauf que la frêle embarcation se maintient sur l'eau par la seule volonté du destin, qui désire envoyer vos premiers ancêtres sur un vaste continent où l'homme et le singe vont évoluer lentement. Une image mentale me montre vos ancêtres qui possèdent des crocs énormes et des mains très larges. Il ressemblait donc à ce monstre qui apparaît au fond du coffre des Yuppies, questionna un jeune adolescent qui luchait d'un œil depuis sa naissance. Disons simplement que les Yuppies voient leur nature primitive, lui répondit Pêchel en fermant les yeux pour mieux se concentrer. Je vois une petite bande de terre rocheuse qui relie l'Afrique à l'Australie. Une vingtaine de vos ancêtres africains décident de suivre ce cordon et arrivent sur les mêmes côtes sur lesquelles je me suis fait accueillir par les Yuppies. Donc, nous sommes en Australie et votre tribu prend son origine de ces explorateurs africains. Ils vous ressemblent tellement que je ne peux me mentir à ce sujet. La voix me dit que vos ancêtres voulurent retourner dans leur village lorsqu'ils réalisèrent que le sol tremblait de partout. Oui, je vois ceux-ci crier d'effroi en examinant s'effondrer peu à peu la chaîne de montagnes qu'ils avaient empruntée pour traverser jusqu'ici. On me dit que ce cordon rocheux disparut 200 ans avant l'Atlantide. Donc, si vous avez rencontré Samia qui disait venir de l'Atlantide, il va sans dire que ce continent existe encore aujourd'hui. Par conséquent, vos ancêtres sont arrivés en Australie il y a moins de 200 ans. Croyez-moi, lorsque l'Atlantide va s'effondrer, je vous conseille de ne pas vous trouver ici. Je vois un terrible tremblement de terre et un raz-de-marée qui va effacer tout sur la côte où vous vivez présentement. Il faudra vous établir au cœur de l'Australie avant peu. Oui, la voix me dit clairement que l'Atlantide n'existera plus dans 100 ans. Vous pouvez en déduire que vos ancêtres sont arrivés ici il y a 100 ans, et que vous avez encore 100 ans pour établir votre village loin des côtes. Nous savons que tu es vraiment le missionnaire que nous attendions, lui dit Nelu en souriant. Non seulement tu nous as apporté des précisions concernant nos ancêtres, mais une mise en garde que nous prendrons sérieusement en considération si nous voulons éviter notre perte. J'espère seulement que nos voisins Yuppie accepteront de te croire si tu leur parles de la fin de l'Atlantide. Pour eux, nos ancêtres viennent de l'île Feu, depuis qu'ils ont entendu Samia décrire l'Atlantide comme un monde peuplé de puissants étrangers venus d'une autre planète. J'avoue qu'il nous fut facile, même à nous les bananutes, de s'imaginer que nos ancêtres étaient évidemment ces étrangers qui possédaient des pouvoirs inconnus. Tu comprends que certains frères de race voulurent posséder l'étrange coffre de Samia afin de s'identifier à une race qui vivait sur l'île Feu. En s'en emparant, ils croyaient pouvoir convaincre leurs descendants de l'origine des Yuppies. Tu nous dis que nous venons d'Afrique, mais ce continent est une abstraction pour ceux qui n'y ont jamais vécu. Par contre, le trésor que détient les Yuppies vient de l'Atlantide et possède des pouvoirs étranges. Si je comprends bien, lui dit Pêchel en souriant, ce coffre représente un monde auquel vous pouviez vous identifier. C'est un peu cela. Il n'y a rien de plus trompeur que la réalité elle-même, lui dit Nelu. Tu nous as parlé de l'Amérique et de l'Afrique qui existent sûrement pour celui qui te croit sincère. Mais aucun bananute ou Yuppie ne connaît ces terres de nos ancêtres. C'est une réalité qui se base uniquement sur une croyance en un missionnaire. Par contre, qui pourra douter de notre origine atlante si nous possédons un objet qui le prouve? Tu me diras qu'il appartenait à Samia, mais comment savoir si l'étranger n'a pas fait ce voyage pour nous apporter un présent de nos ancêtres? Moi, je sais que c'est faux, et mes frères le savent également. Pourtant, les Yuppies parviendront facilement à convaincre les générations futures que ce coffre est celui de leurs ancêtres, puisqu'ils le détiennent réellement. Nous serons accusés de menteurs et d'envieux si nous racontons la vérité. Tu vois, la vérité et la réalité se mêlent constamment dans notre tête. on veut savoir la vérité, mais comme on ne peut toujours la vérifier, on se contente de l'imaginer. L'Amérique est là, mais je ne peux que l'imaginer, tout comme l'Afrique. Si tu me racontes le moindre mensonge à leur sujet, comment pourrais-je savoir? Mais personne ne doit me croire sur parole, lui répondit le missionnaire en soupirant. C'est un fait que les Yuppies détiennent une arme maîtresse contre ceux qui voudraient contredire leur origine atlante. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils obtiendront le titre de civilisés. S'ils possèdent ce coffre d'un grand maître atlante, c'est uniquement depuis qu'ils ont tué un pauvre homme qui ne demandait qu'un peu de nourriture et de repos avant de reprendre sa marche dans le monde. Oui, c'est cela la vérité que les Yuppies refusent d'admettre. Après un court silence, Nelly lui dit, « Selon toi, les bananutes risquent de faire la même erreur que les Yuppies s'ils possèdent ce coffre qui nous est pourtant destiné. » Je pense que si Primus Dazal désire vous le confier, c'est pour vous aider à évoluer et non pour vous en servir comme objet de culte et surtout de pouvoir. Tu sais, Nelly, il est essentiel de toujours vous rappeler que ce coffre n'appartient qu'à celui qui l'avait confié à Samia. Si ta tribu oublie cela, elle va fatalement sombrer dans l'orgueil et la vanité. Les Yuppies sont des imbéciles pour oser s'identifier à des ancêtres qui n'avaient rien de commun avec eux. Cette voix me dit que les Atlantes sont les survivants d'une ancienne planète et non des terriens d'origine. Ils ne sont pas meilleurs que vous, mais simplement plus évolués. Par contre, ils vivaient dans un monde où il n'y existait pas de guerre et encore moins de violence gratuite, comme chez le cas chez vos voisins. Alors, qu'ils cessent de s'identifier à une race qui recherche la pacification. J'ignore si les Atlantes font en sorte de respecter leur nature arcarienne, puisque c'est le nom véritable de leur ancien monde. Mais une chose est certaine en ce qui les concerne. Ils ne pourront jamais renier qu'ils viennent d'un monde d'amour. Je veux dire par cela que les Atlantes possèdent naturellement ce goût pour la paix et l'unité entre les êtres. Il se peut fort bien qu'ils perdent un jour ce souvenir lumineux d'Arcara, mais quelque chose demeurera en eux pour leur rappeler que le pouvoir sans amour est comme un humain sans conscience. Les Bananutes comprirent parfaitement l'importance de rechercher l'amour et non le pouvoir. Tout de même, ils se sentaient menacés par les Yuppies qui s'étaient mis en tête de les sacrifier au monstre Nimala. Déjà, plusieurs victimes Bananutes et Yuppies se retrouvèrent dans le coffre pour tenter de satisfaire le faux appétit d'un simple miroir. Les chefs ambitieux se servaient constamment de ce coffre pour soumettre les membres de la tribu à leurs moindres caprices. On devait obéir ou disparaître au fond du miroir. Jour et nuit, des guerriers surveillaient le trésor des chefs pour empêcher d'autres profiteurs de s'en rendre maître. En effet, Yoma, le chef des Yuppies, était assez intelligent pour reconnaître que son autorité lui venait du coffre et non de ses qualités personnelles. C'était le plus fort physiquement, et donc, c'est lui qui détenait le trésor d'Anakilémon. Comme personne n'osait l'affronter de face, on utilisait la ruse pour tenter de s'emparer du coffre. Le chef se débarrassait donc de tous ceux qui soupçonnaient de vouloir lui voler son pouvoir, en les faisant disparaître dans l'étrange miroir. Cet homme singe, dont le corps était rayé comme un zèbre, s'entourait constamment de soigneurs pour qu'il brosse ses poils. Ceux-ci les léchaient soigneusement pour les mouiller et les peignaient ensuite pendant des heures. Les Yuppies méprisaient ces lâcheurs du pouvoir, mais il ne fallait surtout pas les laisser paraître, de peur que Yoma prenne cette animosité envers ses soigneurs pour de la jalousie. Une nuit, le couvercle du coffre s'ouvrit lentement de lui-même, et un spectre lumineux en sortit sans que les gardiens puissent le saisir. Ce fantôme qui possédait l'apparence d'un vieil homme au regard très doux passa simplement près d'eux pour ensuite disparaître sous leurs yeux étonnés. La forme traversa bientôt la hutte où ils dormaient Péchel et Boubou. Le chien se réveilla aussitôt, mais le fantôme lui dit mentalement, « Je t'en prie, ne jappe surtout pas pour réveiller le missionnaire. Je suis Anakilémon, le propriétaire du coffre, que j'avais confié à mon élève Samia. Je suis venu reprendre ses os afin de les faire ensevelir en Atlantide, là où mon corps repose également dans un champ fleuri. mon pauvre enfant pourra ensuite quitter la terre, puisque c'est moi qui veillerai désormais sur ce coffre, qui était destiné aux hommes de bonne volonté. Je vais devoir le confier à des amis qui sauront s'en servir pour accomplir des missions, comme font Maiden Lorp et Shell. Les maîtres de l'invisible réalisent la nécessité d'avoir plusieurs Peychel sur terre pour réveiller les cœurs. Tout ce que je te demande, c'est de garder le secret absolu de ce que je vais te dire. Il faut que j'emprunte l'apparence de votre missionnaire afin de convaincre les bananutes d'aller se jeter dans le coffre. Rassure-toi, je ne veux pas les faire mourir, mais simplement les envoyer en Amérique. Le miroir est un passage intemporel entre deux époques. Si les Yuppies cessent de nuire à leur évolution, les bananutes auront accès à une foule de connaissances dès qu'ils vivront dans une vaste forêt verte en compagnie d'une colonie atlante qui s'y trouve depuis des centaines d'années. Ils vont les instruire et leur léguer des pouvoirs mentaux d'une rare efficacité. Pourquoi me dis-tu toutes ces choses? Semblait lui demander le chien d'un regard troublé. Tu es l'ami des bananutes et de Peychel. Il me faudra ta complicité pour accomplir ma mission, et pour obliger mon double ou mon jumeau à quitter l'Australie afin de se rendre en Atlantide. En Atlantide? Mais pourquoi lui et pas toi? Peychel, le vrai, est celui que les maîtres de l'invisible désirent envoyer là-bas pour des raisons secrètes. En ce qui me concerne, la mienne est ici, puisque je tiens personnellement à veiller sur mon coffre. Donc, lorsque les bananutes seront tous en Amérique, j'aimerais que tu persuades mon jumeau de partir rapidement vers l'Atlantide. Et s'il se refuse? Oh, ce missionnaire n'est pas le genre d'homme à refuser un tel voyage. S'il apprend que le vin atlant est aussi bon que celui qu'il cultivait sur son ancienne planète. Je ne sais pas si Peychel se souvient d'avoir été le meilleur vigneron d'Arcara, mais dès que tu lui apporteras une cruche qui se trouvait par hasard dans un coin de mon coffre, il voudra connaître ce continent où les vins sont les meilleurs au monde. Une simple cruche de vin suffira à le convaincre de partir sur un radeau comme Samia. Ce n'est pas son goût pour l'alcool qui l'incitera à risquer sa vie en haute mer, mais le souvenir d'avoir bu quelque chose de semblable lorsqu'il vivait sur Arcara. Pour lui, le vin lui ouvre une porte secrète de sa mémoire, tandis que pour d'autres âmes arcariennes, c'est simplement les rêves et la méditation. Il ne faudra jamais dire à ton ami ce que je viens de te révéler sur lui. Lorsque Peychel sera parti, nous travaillerons ensemble pour aider les Yuppies à retrouver leur nature humaine. Présentement, ils agissent comme ce singe féroce qu'ils voient tout à coup sur le miroir de vérité. Un jour, il va leur montrer un autre aspect de leur nature, au fur et à mesure qu'ils évolueront dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est comme les bananutes. Non, comme des Yuppies intelligents et conscients de la valeur humaine. Le fantôme entra dans le corps de Peychel et en sortit ensuite sous son apparence. Le chien vit le double se caresser la tête presque chauve en souriant. Il faudra bien que je m'habitue à mon nouveau corps, même si j'ai souhaité avoir un peu plus de cheveux sur le crâne. Que veux-tu? Je vais m'en consoler en jouant avec cette petite barbiche. Peychel a cette manie de faire comme toi. Ce n'est pas une manie, mais plutôt une compensation, d'après moi. Je vais te faire une confidence qui va bien t'amuser. Lorsque nous vivions sur notre planète, il était habituel de se caresser les cheveux à chaque fois qu'on réfléchissait à une question. Un jour, un enfant se rasa complètement la tête avant qu'un grand prêtre lui demande de bien réfléchir avant de répondre à sa question. Celui-ci ne voulait pas répondre, il dit simplement d'une voix espiègle, « J'aimerais bien réfléchir, mais je n'ai plus de cheveux. » Ce jeune paysan s'appelait Mercier. C'est lui qui vit sur terre dans la peau de Fontaine de Norpéchel. Est-ce pour cela qu'il est presque chauve? « Oh, je ne peux y réfléchir, puisque je n'ai pas assez de cheveux, » lui répondit l'autre Peychel, en riant discrètement, pour ne pas réveiller son double. « Je dois retourner chez les Yuppies pour préparer la grande bataille, qui n'aura pas lieu. »« Ah bon? Puis-je savoir pourquoi? » mais parce que les Youpis se préparent à envahir le village de Bananut dans le seul but de faire des prisonniers pour nourrir Nimala. Si je peux les convaincre que Nelu et les siens viendront se sacrifier sans combattre, il n'y aura pas de bataille inutile entre ces deux tribus. » Le faux pêcheur sortit de la hutte sans se faire remarquer, et Boubou fut donc le seul à connaître son existence. Pour se faire accepter des Youpis, notre missionnaire fit semblant de fuir ce chien féroce qui le talonnait de près en frôlant ses mollets avec ses gros crocs. Mais dès qu'ils furent devant le village ennemi, un combat truqué permit aux Youpis de constater la force et le courage de Pêchel. En effet, le chien sauta finalement sur lui, mais pour ensuite se faire jeter au sol par le missionnaire héroïque qui faisait semblant de le frapper partout à coups de pied. La bête lui échappa de justesse et préféra s'enfuir vers la forêt. Cela fit grand effet sur Yoma et les siens, puisqu'ils craignaient terriblement ce chien féroce. On ne pouvait refuser d'accueillir un étranger aussi courageux et, surtout, croyons-le, celui qui saurait se faire respecter si ce chien s'avidait à rôder près du village. Les Youpis étaient fascinés par la cruauté de Pêchel. En effet, dès que celui-ci trouvait un pacifique parmi cette tribu, il le jetait lui-même dans le coffre en disant froidement qu'il fallait protéger Yoma contre les non-conformistes. Comme le chef voulait la guerre, il ne fallait surtout pas s'embarrasser de ceux qui rêvaient de faire la paix avec les Bananut. En réalité, Anakilémon se servait de ce prétexte pour envoyer en Amérique tous ceux qui souffraient de la tyrannie du pouvoir, axée sur la violence et la bêtise. Après quelques jours, les chefs guerriers finirent par demander à notre homme de limiter les sacrifices avant qu'il décime entièrement la tribu. « Comment? Vous voudriez que je laisse un seul pacifique que corrompent les véritables Youpi? » demanda le missionnaire d'un air hautain. « Ce n'est pas le nombre de guerriers qui importe, mais la valeur de ceux-ci. Allez-vous laisser des faibles lâches vous suggérer de faire la paix avec vos voisins? » Il a raison, s'empressa de répondre l'un des chefs militaires. « Oui, mais qui fabriquera nos lances et nos couteaux si l'étranger se débarrasse de tous nos artisans? » « Comment oses-tu prétendre que je me débarrasse d'eux? » lui demanda le faux pêcheur en le fixant dans les yeux. « Voyons, tu sais bien que je les offre en sacrifice pour nourrir votre Nimala. » « Il a encore raison, » dit un guerrier en baissant les yeux. « Tout de même, il faudrait songer à conserver au moins les lécheurs de poils, » s'exclama un autre chef d'une voix troublée. « Pourquoi? Ils sont inutiles comme guerriers, » lui dit le missionnaire en se grattant la barbiche. « Je vais les sacrifier en dernier, mais ces Youpis ne sauraient même pas tenir une lance correctement. Donc, si vous voulez la guerre, n'espérez pas la gagner avec des lécheurs de poils. » Puis entre nous, j'ose croire que vous lécherez vous-même les beaux poils de Yoma, puisqu'on ne devrait pas laisser ce noble travail à des faibles qui risqueraient de les salir avec leur salive. Non, pour vous prouver que je vous admire, je vais de ce pas en discuter avec votre chef afin qu'il n'accepte plus dorénavant de lécheur indigne de ce privilège. Un chef aussi prestigieux que Yoma admettra sans peine que seul l'effort devrait avoir le droit de lui lécher les poils. Tu devrais attendre un peu avant de lui suggérer une si bonne idée, lui demanda timidement un autre guerrier. Tu dois d'abord sacrifier d'autres indésirables de notre tribu, afin d'écarter de notre armée tous les pacifiques. En ce qui concerne les poils, tu pourrais y songer plus tard, puisque l'important est de terminer ton excellent travail. Ainsi, vous êtes tous d'avis que je fais bien les choses? Oui, oui, lui répondirent les chefs sans hésiter. Donc, je peux poursuivre les sacrifices sans vous offusquer. Oh, nous admirons ton zèle et t'appuyons sans réserve, lui répondit un guerrier en plaçant sa main sur son épaule. Anakilémon s'éloigna en souriant à un jeune Youpi qui se mit aussitôt à trembler de peur en voyant le sacrificateur lui faire signe de s'approcher. L'enfant s'exécuta et répondit ensuite à toutes ses questions avant de se faire dire par l'étranger. « Tu aimes te battre avec tes camarades. Tu maîtrises les Bananut. Tu ridiculises ceux qui disent que les Youpis ont tué un pauvre voyageur et tu souhaites devenir un jour un grand guerrier. Franchement, Je ne voudrais pas te priver de priver les Yuppies d'un jeune qui a de telles ambitions. Tu peux aller en paix. Tu sais, l'endormi que tu vois là-bas n'est plus mon camarade depuis qu'il affirme que le coffre de notre tribu appartient également aux Bananut. Je l'ai frappé avant de lui cracher à la figure. Il a osé prétendre cela, lui demanda le sacrificateur d'un air innocent. Oui, s'il n'est pas un lâche, il va te le dire lui-même. Anakilémon marcha d'un pas décidé vers une hutte, où un jeune Yuppie s'était assoupi devant celle-ci. Il le secoua rigoureusement, pour lui dire sans détour. « Si tu n'es pas un lâche, dis-moi s'il est vrai que tu accuses les membres de ta tribu de conserver un coffre qui appartient également aux Bananut, vos ennemis. » « C'est la vérité, lui répondit l'enfant en baissant les yeux. « Tu crois cela? » « Mon père est demeuré dans le village de Yuppie, mais ma mère vit chez les Bananut. Jamais je ne la reverrai si nous faisons la guerre. Avant, nous étions une seule tribu, et maintenant, il y a ceux qui veulent se battre pour être les maîtres du coffre. Pourquoi fallait-il que cet étranger arrive ici avec un objet qui nous divisa en deux tribus? » L'étranger faillit pleurer en entendant ce pauvre enfant lui parler comme un vrai sage. Sans attendre, il le traîna vers le coffre afin de l'envoyer en Amérique. L'autre jeune cria à la victime, « Que Nimala te dévore afin que ta mort serve d'exemple à ceux qui parlent en mal de notre tribu. » « Éloigne-toi pendant que je dépose ma victime dans le coffre, » cria le missionnaire pour obliger ce jeune Yuppie à se tenir à distance. Il dit calmement à l'autre jeune, qui tremblait de peur, « Aucun monstre ne vit dans ce coffre. Tu vas simplement traverser un miroir et atteindre une fort jolie forêt verte, où des amis viendront t'accueillir avec joie. Tu y retrouveras bientôt ta mère, puisque tous les Bananut iront comme toi dans ce nouveau monde. Oui, ferme les yeux. » Et n'ai surtout aucune crainte. Est-ce que tu me fais confiance? Je pense que oui, lui répondit la victime, avant de passer à travers le miroir. C'est ainsi qu'un autre Yuppie pacifique échappa à la tyrannie de Yoma. Celui-ci réalisait parfaitement que sa future armée ne compterait plus bientôt qu'une centaine de membres, mais les chefs militaires cherchaient à le rassurer en lui disant que l'étranger ne faisait que lui retirer ceux qui étaient inutiles pour faire la guerre. « Je vous crois, » dit Yoma, en faisant signe à ses soigneurs de lui lécher les poils. « Lorsque mon armée sera prête, nous devrons traverser la forêt avant d'atteindre le village ennemi. Grâce à notre protecteur, le chien féroce n'osera pas nous attaquer. Puis, si l'étranger peut maîtriser une bête aussi puissante, j'aime à m'imaginer ce qu'il est capable de faire à ces faibles Bananut. En réalité, nous n'aurons pas besoin d'un grand nombre de guerriers pour capturer les futures victimes qui seront offertes à notre monstre Nimala. Oui, cet étranger est doté d'une force prodigieuse qui saura bien nous servir dans ce combat, lui répondit l'un des chefs militaires en souriant. Lorsque nous reviendrons avec nos nombreux prisonniers, le sacrificateur préférera les utiliser avant d'autres Yuppies. « Je l'espère bien, » lui dit un autre guerrier en soupirant de soulagement. Au village des Bananut, le vrai Pêchel cherchait encore un moyen de protéger cette tribu contre les Yuppies. Le chien ne l'aidait pas du tout à se concentrer, puisqu'il affirmait avoir vu des milliers de Yuppies faire des exercices avec des armes. « Je t'en prie, Bobo, cesse d'exagérer ce que tu as vu, » lui dit son ami en marchant sur un sentier autour du village. « La tribu Yuppie compte des centaines de membres, et non des milliers. »« Oui, mais comment sais-tu combien de lances un Yuppie peut nous envoyer en même temps? »« On dirait bien que tu fais tout pour me rassurer, sacré Bobo. »« Je veux simplement te mettre en garde contre une éventuelle guerre qui fera plus de mal que de bien aux Bananut. »« Une guerre ne fait jamais de bien à personne, si tu veux mon avis. »« Il faut chercher à l'éviter. » mais sans tout de même nous laisser soumettre aux caprices des Yuppies. Le missionnaire demanda à son compagnon d'aller faire le guet dans la forêt, afin de venir le prévenir aussitôt en cas de danger. L'armée Yuppie pouvait attaquer à tout moment, et cela inquiétait grandement notre homme. Il se retira seul dans un coin de sa hutte pour réfléchir. Alors une voix intérieure lui dit ainsi, « Mon pauvre ami, pourquoi t'inquiètes-tu autant pour les Bananut? nous sommes la voix de ton cœur et non celle de ta raison. Crois-tu que nous t'avons envoyé sur terre pour te punir d'avoir manqué d'amour envers ton prochain? Souviens-toi de ton ancienne planète et du cœur fantastique qui répandait sa lumière sur un peuple baigné par son amour. Comme les autres Arcariens, tu ignorais la différence entre un monde de paix et celui dans lequel tu vis aujourd'hui, comme une brebis perdue dans un pays gouverné par les loups. Qui êtes-vous donc pour savoir toutes ces choses sur mon ancienne planète? Nous sommes tes guides invisibles et ta conscience. Tu vois, ton cœur tremble de douleur à l'idée de voir des bananutes se faire massacrer par les Yuppies. C'est cela la compassion envers ton prochain. Nous savons que tu souhaites également éviter cette guerre pour empêcher le sang de couler de par de vaines querelles. Tu penses aux bananutes, mais aussi aux Yuppies qui périront au cours de cette guerre. C'est cela aimer son prochain. Souviens-toi que le cœur fantastique préféra se faire diviser en deux afin de pouvoir éclairer les fidèles et les infidèles. Il savait parfaitement que les fautifs n'étaient pas tous des ingrats, mais simplement des inconscients. Un jour, tu reviendras dans ton ancien monde lorsque tu auras appris la valeur inestimable de l'amour. Je vous en prie, aidez-moi à empêcher cette guerre stupide entre deux groupes qui vivaient jadis dans la même tribu. Alors, souviens-toi de ce que fit le cœur fantastique pour protéger ces deux peuples. Oui, quelques souvenirs me reviennent à l'esprit, s'exclama Péchel d'une voix reconnaissante. Il envoya les fautifs dans un autre canton, où la vie était plus difficile, mais au moins les loyalistes n'y mirent jamais les pieds par crainte de devoir y perdre leur quiétude. De ce pas, Péchel se rendit dans la hutte de Nelu, pour lui proposer d'abandonner le village aux Yuppies. Nous n'avons pas l'intention de fuir nos ennemis, lui répondit aussitôt le chef des Bananutes. Mais qui te parle de fuir avec les autres membres de ta tribu? Je t'ai dit que l'Atlantide va s'effondrer et qu'il sera indispensable d'établir votre village loin des côtes. Le faire maintenant ou plus tard n'a rien à voir avec une fuite. Si nous le faisons maintenant, les Yuppies nous accuseront d'avoir été trop lâches pour les affronter. Oh, pardon, c'est plus important de vous laisser massacrer que de vivre en lâche. Tu sais bien, Péchel, que nos voisins finiront par nous attaquer ici ou ailleurs. Ils veulent des victimes pour leur monstre Nimala, et nous sommes malheureusement trop pacifiques pour nous constituer une armée de guerriers efficaces. Le temps est votre arme. Le temps? Tu veux dire que si la guerre n'éclate pas bientôt avec nos voisins, que nous pourrons la retarder avec le temps? Je regrette, mais nous ne sommes pas des nomades pour nous éloigner indéfiniment de nos ennemis, mais des sédentaires. Oui, sédentaires, que vous allez tous vous retrouver si vous tenez à mourir. Ce n'est pas dans la terre que vous terminerez cette guerre, c'est dans le coffre. Je sais que tu as vraiment envie de me traiter d'imbécile pour refuser de quitter le village avec les autres. Lui dit Nelu. Tu peux me le dire sans risquer, sans aucune sanction de ma part. Alors je te dis que tu es un imbécile pour jouer au grand chef d'une tribu qui n'existera plus par ta faute. Si tu veux demeurer ici, je respecterai volontiers ta décision, mais laisse au moins la chance aux autres de décider pour leur vie. D'accord. Je vais leur parler et dis-leur la vérité sans plus. Personne ne quittera le village sous le prétexte de se protéger contre un éventuel séisme naturel, si c'est cela que tu veux utiliser comme argument de persuasion. Sois sincère en demandant simplement à ceux qui ne veulent pas affronter les Yuppies de quitter le village avant le combat. Je vais leur dire la vérité, en espérant qu'ils comprennent que cela est dans leurs intérêts d'éviter cette guerre en se montrant moins suicidaires que leur chef. Péchel sortit de la hutte en colère. Il trouvait l'attitude de Nelu vraiment exécrable dans les circonstances. En effet, comment pouvait-il accepter de voir son peuple se laisser massacrer sans au moins chercher à le protéger en abandonnant le village aux Yuppies? Le missionnaire croyait fermement que les Bananutes possédaient une chance d'échapper à leurs voisins en se dispersant un peu partout à travers l'Australie. Il se disait que la vie serait plus difficile au début, mais que les Yuppies aimeraient trop leur vie de pêcheurs pour traquer leur ennemi dans la brousse. L'idée était bonne, mais les membres de la tribu refusèrent de quitter leur village sans Nelu. Pêchel leur suggéra d'aller au moins se cacher dans les bois pour entourer l'ennemi lorsque celui-ci entrera au village. « C'est inutile de vous laisser bêtement surprendre par les Yuppies, » leur dit le missionnaire. « Si Nelu décide d'aller se cacher pour quelques jours, nous le suivrons sans discuter, » lui répondit un vieux membre de la tribu. Le missionnaire retourna donc dans la hutte de Nelu pour le supplier d'aller se cacher dans le bois. « Si tu refuses de fuir, accepte au moins d'aller te cacher avec les autres. »« Que ferons-nous ensuite ?»« Nous attendrons que nos voisins détruisent nos huttes et mangent toutes nos provisions. »« Écoute, Nelu, tu ne veux pas fuir et tu ne veux pas que les Yuppies détruisent ton village. Donc, tu veux la guerre. » même si tu connais déjà le nom de la tribu perdante. Rien ne dit que nous serons les perdants, puisque nous combattons pour défendre nos biens. D'accord, lui dit le missionnaire, mais si tu veux combattre, commence par développer des stratégies militaires. L'une d'elles consiste à surprendre l'ennemi avant qu'il puisse déployer ses forces. Chez moi, on dit que tel est pris celui qui croyait prendre. Pendant que les Yuppies vont encercler le village, vous sortirez subitement des bois pour entourer vos ennemis. C'est vraiment original comme stratégie, mais les Yuppies n'entreront pas dans notre village s'il est vide. Il faut donc leur laisser croire qu'il est encore occupé. Il suffit de confectionner des personnages ou des formes humaines que vous placerez au fond de vos huttes. L'important, c'est de tromper la réalité, comme tu le disais dernièrement. Oui. La réalité est vraiment trompeuse. Bon, pourquoi pas après tout ?